donc, c'est une chronique appropriée aujourd'hui. Le printemps arrive, c'est Pâques en plus en fin de semaine. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être succomber à la tentation d'avoir un chien, un nouveau chien à la maison pour l'été, pour le chalet. Les enfants en veulent un. C'était une promesse de cadeau de fin de classe. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on pourrait avoir le goût d'avoir un nouveau petit chien maintenant. Et pour parler de cette étape-là, soit à partir de la sélection, ça veut dire quoi, jusqu'à la première nuit quand il arrive à la maison, là, il y a beaucoup de choses importantes à comprendre. Et pour en parler, je vais aller rejoindre Dr. Claudia Forgette. Elle est médecin vétérinaire, directrice médicale du groupe vétérinaire Anima Plus. C'est avec grand plaisir que je l'accueille à nouveau. Dr. Forgette, bonjour.
Bonjour, merci.
Bien, vous êtes fine d'être là, puis là, je suis particulièrement intéressée par votre chronique d'aujourd'hui. C'est moi qui vous ai demandé de parler de ça, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui vont être capables d'apprendre des choses. Quand on réfléchit là, à avoir un tipitou, un nouveau tipitou, il y a bien des affaires à penser.
Oui, oui, effectivement. Puis la première affaire à penser, c'est que c'est vrai que c'est un contrat de vie. Hein? C'est aussi une expérience super extraordinaire d'avoir un animal. Là, vous allez voir ça dans les prochaines semaines. Ça a plein de côtés bénéfiques. Ça nous apporte de la compagnie, un soutien quand on est triste. Ça nous oblige à faire de l'exercice aussi, parce qu'il faut le faire pour le chien. Donc, on est obligé de bouger nous aussi. On prend des marches. Mm-hmm. Quand les gens, même les jeunes ou les plus âgés, il n'y a pas d'âge pour avoir un animal. Pour les personnes âgées, là, je vois vraiment le bénéfice là, en consultation. Ça peut aller jusqu'à donner un sens à leur vie. Des fois, ils n'ont plus vraiment beaucoup de contact avec les gens autour d'eux. Donc, c'est une raison même pour se lever le matin et s'en occuper.
Ouais.
Donc, pour les enfants aussi, en plus de tout ce qu'on a dit, c'est un moyen de commencer à donner des petites responsabilités à nos jeunes. Il ne faut pas s'attendre à ce que le jeune va s'en occuper de A à Z parce qu'il a demandé un chien. Il faut y aller aussi avec l'âge puis le pourcentage de responsabilité pour qu'il y ait un succès là-dedans aussi.
Bon, il y a bien des bienfaits, mais il y a des responsabilités.
Oui, puis il faut pas se cacher aussi, quand on adopte un animal, on va en parler tout de suite. Là, si on veut bien s'en occuper, il faut penser aussi qu'il y a des soins vétérinaires à prévoir. Donc, c'est important d'établir un budget pour ces soins-là.
On a-tu une idée?
Ouais,
mis à part, allez-y.
Ben, j'ai pensé essayer de vous faire un genre de budget, mais le coût est tellement variable selon les besoins. Aujourd'hui, les vaccins sont donnés selon les besoins de chaque animal. Un animal qui va aller dehors va avoir besoin de plus de sortes de vaccins qu'un chien, puis il va être protégé pour plusieurs maladies par rapport à un chien qui reste à l'intérieur. La stérilisation d'un chien dans la première année, elle est moins dispendieuse sur un petit chien par rapport à un grand chien. Il y a des grandes, grandes variétés au niveau... ce que je conseillerais, c'est vraiment d'appeler au vétérinaire afin d'avoir un aperçu des coûts avant même de faire un achat, puis d'éviter les surprises.
Okay.
Puis, savez-vous qu'il existe aussi maintenant des assurances qui sont utiles si jamais il y a des problèmes de santé? La Caisse des Jardins en fait une, et il existe aussi la compagnie Pet Secure aussi qui peut aider.
Ah oui! Une assurance.
Ça peut éviter des fois des euthanasies quand il arrive un accident qu'on n'avait pas prévu. Là, ça peut aider beaucoup.
C'est une bonne idée, ça. Bon, là, évidemment, quand on pense à un chien, il y a tout le monde a une petite préférence en tête, mais la sélection de la race, c'est important. Il faut y penser.
Oui, parce qu'il en existe tellement de types de chiens. Sans parler nécessairement des races, mais quand même, là, des types de chiens, il y a plusieurs particularités, puis il y en a qui vont avoir besoin de bouger beaucoup chaque jour, plus qu'une heure, si on veut pas qu'ils s'ennuient puis qu'ils brisent des choses dans la maison. Je pense, mettons, à des races comme le Jack Russell, qui est bien beau, mais c'est ça, c'est une bombe. Ça a un spring dans le derrière, ça saute, il faut que ça bouge. Les bergers australiens, les labradors, les golden, c'est des grosses races qui veulent bouger. Par contre, un petit chihuahua, un carlin, ça nécessite pas autant d'exercice. Donc, les races, là, il faut les choisir en fonction de nous, comment on vit, l'espace qu'on a aussi. Si vous avez un 3,5, là, c'est vraiment pas la bonne idée d'avoir un Danois.
Ben non, mais ouais,
vraiment
ça.
Pas. Mais ça arrive, hein, on le vit en clinique. Là. Il y a des gens, des fois, qui nous arrivent avec des gros chiens, des problèmes de comportement. Ben là, c'est sûr, il n'y a pas assez d'espace. Hein. Si on n'a pas de temps aussi pour consacrer à sa toilette. Il y a des chiens qui demandent beaucoup d'entretien. Je pense, mettons, au berger anglais ou le Yorkshire. Ben, si on n'est pas capable de le faire, il faut prévoir un budget pour le salon de toilettage, là, toutes les 6 semaines, à peu près.
C'est ça. Mais dites-moi, quand on parle de race, là, parce que là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a un avantage? Puis est-ce que c'est un must d'acheter un chien pure race ou est-ce qu'un bâtard, c'est bien correct?
Ah oui. Ben, c'est sûr que, les races, c'est ça qu'on connaît. Hein. Dans le fond, c'est comme ça qu'on on s'attache à une forme de chien. On dit, bon, c'est un golden. Mais effectivement, il y a beaucoup présentement de races mélangées, finalement, qui sont pas encore des races, mais qui sont des chiens mélangés. On n'a qu'à penser, mettons, au Golden mélangé avec le Caniche Royal. C'est le Golden Doodle. Ah. Ce que j'aime de ça, c'est que ce sont des... C'est riche en génétique. Un animal qui a des gènes de deux différentes races va être plus fort génétiquement. On risque moins d'avoir de maladies génétiques avec ça. Donc, j'ai pas nécessairement de préférence à vous dire, mais je sais qu'un chien mêlé a plus de résistance.
Puis, on achète ça où, un chien? Est-ce que les pet shops, est-ce qu'on va à la SPCA, est-ce qu'on va chez un éleveur, est-ce qu'on regarde une petite annonce dans le journal, puis la madame avant un chien qu'elle a eu? Comment ça marche?
Mais je pense qu'on peut regarder un petit peu dans toutes les sphères. Les endroits qui font de l'élevage à grande échelle, c'est sûr que c'est des endroits qu'il faut faire attention, là, les usines à chiots. Ces endroits-là, il y a plusieurs races, les conditions d'élevage sont douteuses. Donc, c'est sûr que dans des animaleries, on ne peut pas savoir cette partie-là. On ne peut pas savoir les parents, ils ont l'air de quoi. C'est important. Il faut choisir un vendeur qui peut nous montrer les parents, des photos de ses parents, aller voir les lieux, voir si c'est propre, où est-ce qu'il est né, si les animaux, ils ont l'air d'être bien traités.
Okay.
Puis aller chercher son animal dans un refuge, c'est une très bonne façon aussi de sauver un animal. C'est sûr qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé avant, mais c'est bien sûr que on va pas non plus trouver la race nécessairement qu'on souhaitait. Faut être ouvert à ce qu'il y ait des coups de cœur qui se passent sur la place, directement sur la place. Mais il y a beaucoup de bons chiens aussi qui sont dans des refuges. Mais faut pas nécessairement chercher une race parce que c'est ça. On sait pas ce qui va arriver. Quand on arrive la journée même, il y a tellement de chiens qui sont laissés dans ces centres-là que c'est ça, d'une journée à l'autre, ça change malheureusement.
Bon, disons que la petite famille a décidé, puis je vais prendre un exemple très concret parce qu'il y a plein de monde qui achète ça, mais mettons un Golden Retriever. Hein, c'est une race populaire, il est fin, il est beau, il est cute. Ah ouais, donc. OK. On décide de l'éleveur, le prix fait notre affaire. Là, ça donne que c'est notre journée pour aller chercher notre chiot. Il vient de venir au monde, il y a 8 semaines, puis peut-être vous allez me dire que c'est trop de bonheur ou trop tard, je ne sais pas, vous me le direz.
Non, 8 semaines, c'est quand même bien.
OK.
C'est petit, je trouve ça, c'est un peu petit, parce que la mère a fait beaucoup d'éducation à son chiot. Puis dans ces semaines-là, justement, c'est important, au moins jusqu'à 8-10 semaines.
Bon, OK. Fait que là, on s'en va là, puis là, il faut choisir notre chien. Là, il y a une portée, mettons, de 8, puis là, il faut choisir. Comment on fait?
Bien, c'est sûr que quand on regarde ça, vous allez voir apparaître les petits museaux, là, vous allez craquer. C'est sûr. Puis il y en a un, par sa beauté physique, qui va vous attirer puis qui va vous tirer une flèche droite dans le cœur. Mais donnez-vous quand même la chance de regarder certains indices là, avant de décider. D'abord, au niveau comportement, je vous conseillerais de prendre un chiot qui va, sans être le plus énervé, être content de vous voir, semble avoir un intérêt pour l'humain. Mais il faut éviter un petit peu ceux qui sont retirés, craintifs, puis souvent des plus petits aussi. Donc, ceux-là peuvent avoir la tare génétique, un petit problème de santé quand ils sont un peu plus maigres que les autres. Pas sûr, mais tu sais, si on a le choix, là, je prendrais un chien qui est capable là, de venir nous voir sans être le premier qui saute sur tout le monde puis qui écoute plus tellement qu'il est énervé. Là.
Okay.
Un chien genre équilibré, qu'on dirait.
OK.
On examine la dynamique du groupe là, avant même là, d'en prendre un dans nos bras. Puis une fois choisi, manipulez-le, prenez-le. Il devrait se sentir en confiance rapidement. Vous pouvez essayer des petites techniques de soumission comme de le mettre sur le dos ou le prendre sous les aisselles comme on prend un enfant quand on le lève de terre.
Oui.
On attend un peu voir sa réaction. S'il se prête facilement à nos manipulations, on va sans doute avoir moins de difficultés puis il va être peut-être plus docile à la maison. C'est pas une garantie, mais c'est des petits trucs que, oui, s'il le fait, on sait qu'il est plus capable d'être tranquille. Il est certain que dans un enclos, hein, ils réagissent pas tous de la même façon. Puis, lorsqu'on aura passé là, du temps de qualité avec lui à la maison, les manipulations peuvent nous indiquer quand même que les sujets vont être faciles à élever, mais c'est pas une garantie. C'est à la maison, je pense, qu'après, vous allez peut-être plus savoir le feeling.
OK. Mais il faut y aller aussi avec son cœur, là.
Oui, j'avoue. C'est ça qui s'est passé chez vous?
Oh, ben un peu de tout ça, je pense, quand on a choisi un petit chien là, récemment. Bon, là, quand tu le choisis, là, ça donne que tu pars avec. Là, oh boy. Première journée, première nuit à la maison, on fait quoi?
Bien, c'est certain que la première nuit, là, loin de ses petits frères, ses petites sœurs, ça risque d'être pas trop silencieux. Et puis, on recommande souvent, la majeure partie du temps, d'acheter une cage. Le chien va se sentir un peu plus enfermé, mais en sécurité. On met une bonne couverture, des jouets si on veut, un cadran, un peu de nourriture à la fin, là, une petite gâterie pour qu'il sente que c'est une bonne place pour lui.
Un cadran? Attendez, là, un cadran?
Ben, ça peut être une possibilité de mettre un genre de bruit sonore, pas nécessairement dedans ou à côté, un petit bruit régulier.
Ah.
Ça peut aider.
OK.
Il faut être patient aussi, hein, parce que c'est sûr que les premières nuits vont être peut-être un peu plus difficiles, mais ça va pas prendre beaucoup de temps que le chien va s'habituer à sa routine avec vous autres. Puis on va voir là, comment c'est merveilleux d'avoir un chien à la maison.
Parce que la routine, là, c'est le chien qui doit s'adapter, pas l'inverse.
Oui, effectivement. On n'a pas le choix. De toute façon, avec les vies qu'on vit, on voudrait bien des fois, les besoins du chien seraient peut-être de sortir plus souvent. Mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent, donc on fait notre possible. On le sort, on joue avec avant d'aller travailler, en revenant d'aller travailler. Mais c'est sûr qu'effectivement, le chien, il faut qu'il s'adapte à notre
vie.
Ouais. On parlait tantôt, j'avais oublié de parler. Oui. On regardait au niveau de la santé générale du groupe,
oui,
sa santé du comportement, mais sa vraie santé au niveau physique. Vérifiez, hein, quand vous l'avez dans les mains, s'il semble avoir de la diarrhée, s'il y a des écoulements verdâtres au niveau du nez aussi, c'est peut-être pas non plus très bon. Là, ça peut nécessiter des antibiotiques. On peut regarder plein de choses. Là, sa démarche, entre autres, est-ce qu'il boite? Y a-t-il des petites blessures dessus? Puis je pense qu'il faut vraiment porter une attention à le faire vérifier avant que notre cœur s'accroche trop fort au chien.
Ah.
Parce que si le vétérinaire découvre un gros souffle cardiaque ou une malformation qui va nécessiter une grosse chirurgie, c'est important peut-être de le faire avant de s'accrocher après ce chien-là. Puis apporter des analyses de sel lors de la première visite, parce que souvent les chiens sont porteurs de parasites, puis c'est important de s'en débarrasser le plus vite possible.
Ah. Mais quand on part de l'éleveur, souvent on a comme un genre de bilan de santé. Il y a un vétérinaire qui l'a vu déjà, non?
Oui, il y a eu un premier examen qui a été fait. Mais c'est des chiens, des fois, qui peuvent... Puis il y en a aussi, des fois, qui n'ont pas fait leur premier examen de santé.
Ah.
Des fois, les gens vont choisir de ne pas aller voir le vétérinaire puis de vendre leur chien sans qu'il y ait d'examen primaire. Mais c'est sûr que ça, c'est déjà sécurisant si on a un examen primaire qui a été fait. Mais c'est des jeunes chiots, puis il y a quelque chose qui peut sortir par la suite aussi.
Je comprends. Là, j'ai peut-être une dernière question. Vous allez la trouver peut-être drôle aussi. Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce qu'il faut faire attention quand on décide du nom de l'animal? Pour par exemple, ses capacités d'obéir, là. Est-ce qu'il y a un lien entre une commande puis son nom?
C'est sûr que les chiens reconnaissent plusieurs mots qu'on dit. De vous dire exactement, non, je pense pas que ça ait un gros rapport. Ils sont assez intelligents pour faire...
Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, j'entends que c'est deux syllabes, pas trois. Un mot avec deux syllabes.
Ça peut l'aider à se concentrer, effectivement. Mais je sais bien que chez nous, mon chien a plein de noms, d'amour. Puis des fois, quand c'est bébé chien, même si son nom c'est Théo, bébé chien, il sait que c'est lui aussi.
Ah!
C'est ça. Ils sont quand même intelligents, mais effectivement, vu qu'on peut pas, chaque chien est aussi différent, pour la concentration, ça pourrait être une bonne chose de pas donner le nom de Nabucodonosor, mettons.
Ben, c'est ça. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, et également pour les maîtres.
Oui.
Ben, c'était bien intéressant. Je vous donnerai des nouvelles de tous ces conseils-là.
Hey, certain. On pourrait parler de la suite la semaine prochaine.
Oui, la suite étant?
La suite du chiot à la maison.
Ah oui, oui, les premiers dégâts. Comment on punit? Est-ce qu'on punit un chien ou est-ce qu'on en punit?
Oui, ou la stérilisation, ça m'intéresse aussi de vous parler des nouvelles tendances là-dessus.
OK, parfait. Puis on fait ça, en passant, à quel âge on fait ça?
C'est ça qu'on va parler.
OK.
Là, c'est tout nouveau depuis quelques mois qu'on en parle, que c'est différent selon la grandeur de l'animal. Donc, je vais pouvoir vous expliquer ça.
La semaine prochaine?
Oui.
Ben, c'est un rendez-vous que je ne manquerai pas.
Merci.
OK, bye.
Au revoir.
OK, alors, Dr. Claudia Forget, elle est médecin vétérinaire, directrice médicale du groupe vétérinaire Anima Plus, avec deux boutiques, bien sûr, à Gatineau.